Bon, ben c'est temps de prendre un temps d'arrêt. On prend une grande respiration, tout le monde. Allez, non, pour vrai, là, faites-le avec moi. Bienvenue au Balado des décrypteurs, ici Alexis Delancer, ravi de vous retrouver. Salutations distinguées à toutes et tous qui nous suivez semaine après semaine, à ceux qui se joignent à notre aventure. Salut, bienvenue. On est ravi de vous avoir parmi nous, Jeff et Nicolas. Comment ça va?
Bienvenue à votre moment relax de la fin de semaine.
Exactement, moment relax, barre oblique, un brin dystopique, mais barre oblique, on a du plaisir quand même.
Toujours.
Mais vous savez qu'on a toujours cette volonté, dans la mesure du possible, de mettre les choses au clair. Est-ce qu'on commence avec une tentative pour mm-hmm. mettre les choses au clair dès le départ? Mm-hmm. Mon sommeil a été quelque peu troublé depuis cette semaine.
Mon Dieu!
Parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit sous la vidéo de la semaine dernière, publiée, mise en ligne sur YouTube, l'affirmation suivante, qui me concerne, qui concerne votre humble serviteur. L'attitude passive-agressive de l'animateur envers ses co-animateurs est un peu ridicule. Messieurs, suis-je passif-agressif avec vous?
Genre, je sais pas à quel point si vous comprenez comment Alexis, c'est le contraire de passif-agressif. C'est Mr. Sunshine. J'ai jamais travaillé avec quelqu'un aussi de bonne humeur constamment que toi. Genre, t'as pas une once de méchanceté à l'intérieur de toi. Je t'ai jamais vu fâché contre qui que ce soit, ou presque.
Ou presque.
Mais c'était justifié. T'étais justifié dans le moment, mais jamais contre Nicolas ou moi.
Parce que c'est ça, rapport.
Là. Il y a aucune passive-agressif.
Mais c'est vrai quand... Jeff, tu peux en témoigner, dans nos places assises, dans notre îlot, là, il y a Nicolas et moi aux extrémités, Jeff au milieu.
Pis ces deux-là, ils sont très frondeurs, t'sais, ils s'envoient des jokes, mais comme, c'est des blagues.
C'est des blagues. Non, mais tu sais, absolument pas, là, t'es pas passif-agressif. Mais en adressant le commentaire, vas-tu en attirer d'autres? C'est ça la question, parce que c'est ça qui arrive.
La question se pose.
Là, s'ils pensent qu'on peut troubler ton sommeil avec ça, peut-être que d'autres vont essayer.
Ah, ça se peut. Allez-y gaiement, ça va, c'est de bonne guerre.
Mais il n'y a aucun beef. Là.
Je veux juste dire à tout le monde que Alexis a lu le commentaire mardi, puis Nicolas a passé sa semaine à dire « Hey, pourquoi t'es passif-agressif? » Pourquoi t'es passif-agressif? Chaque fois qu'Alex faisait un commentaire, « Hey, c'était-tu passif-agressif? » pour de vrai, il n'y a aucune négativité.
Ben non. On va clore le chapitre. Là, c'est de la franche camaraderie. Ces deux êtres humains à côté de moi, ce ne sont pas que de simples collègues.
Et yes.
Qui aiment bien, châtient bien. Surtout dans le cas de Nicolas, moi, c'est le fun à faire. OK, Nicolas, ce qui a aussi fait jaser, c'est ton amour du macaroni chinois.
Ouais, il y avait quand même des bons commentaires là-dessus.
Ouais. Oui.
Je l'ai pas pris finalement, d'ailleurs.
Non, t'as pas pris non. Non, t'as remis ça cette semaine, peut-être, non? Mais t'avais aussi parlé du Pizzagatti.
Ouais.
Mais ça, t'étais anti-Pizzagatti.
Ben écoute, en principe, là, encore une fois, le monde font ce qu'ils veulent.
Oui, puis là, t'avais parlé de ce que penserait un Napolitain d'un Pizzagatti.
Oui.
Puis une personne qui a dit, imagine montrer un Pizzagatti à un Napolitain, mais imagine montrer un macaroni chinois à un Chinois.
Excellent point, puis j'aimerais beaucoup faire l'exercice. Ce serait incroyable.
Ben, ça ressemble à un chow mein.
C'est vrai.
C'est un chow mein, mais avec du macaroni plutôt que des nouilles longues. Là. Comme, c'est un classique de la nourriture chinoise nord-américaine. Là.
Mais j'imagine les Chinois doivent être moins...
Il y a un documentaire quand même super bon. Je pense qu'il est encore sur Netflix. C'est sur le général Tao, le poulet général Tao.
Un documentaire sur le général Tao.
C'est vraiment fascinant parce qu'ils vont en Chine montrer à des Chinois du poulet général Tao et sont comme « What is this? » Parce que c'est pas vraiment de la nourriture chinoise. C'est de la nourriture... issus de l'immigration chinoise
la
en Amérique du Nord.
C'est les
immigrants chinois qui ont fait de la bouffe qu'ils pensaient que les Nord-Américains aimeraient. Mais c'est fascinant, l'histoire derrière ça, qui n'a absolument rien à voir avec le général Tao.
Mais il y a vraiment un général Tao. Il y a un gars qui s'appelait Tao.
Oui, c'est Tso. Mais c'est lié à des séparatistes chinois qui sont allés à Taïwan. Pour de vrai, c'est absolument fascinant ce documentaire-là.
Ouais. Bon, mais à voir.
Je suis sûr que les Chinois seraient moins à cheval que les Italiens là-dessus. Ils feraient comme « Ah, cool, c'est un bel hommage. » Tu sais.
Peut-être,
mais je ne veux pas parler pour eux. Moi, je ne parle pour personne.
Mais en tant qu'Italien.
Mais c'est ça, mais les pâtes Alfredo aussi. Là.
Mais les pâtes Alfredo, ça a vraiment été créé en Italie.
Mais pas de crème.
Pas de crème.
Bon, c'est ça la nuance. Bon, voilà qui est précisé. Ce qui est à la mode, en tout cas, en ce moment, chez la mouvance Magan, vous le savez, hein, c'est la choucroute en ce moment.
Je m'attendais pas à cette transition-là. Pour vrai?
Oui.
C'est quoi l'histoire?
Robert F. Kennedy Jr. qui a fait l'éloge de la choucroute.
Okay.
Parce qu'il y a une obsession pour les aliments fermentés dans une certaine frange du merveilleux monde du web. Bon, autre commentaire que je souligne, je pense que vous êtes officiellement mon balado préféré. Je vous ai découvert il n'y a même pas un mois. J'ai écouté tous vos épisodes 2026. Merci.
Wow. Gros binge.
Gros binge des
décrypteurs. Merci beaucoup.
Merci, c'est apprécié. Mais je gardais le meilleur pour la fin. Pas le meilleur, mais un commentaire qui nous fait particulièrement chaud au cœur. Et c'est un courriel qui nous a été envoyé. N'hésitez pas à nous écrire par courriel, ceux qui nous écoutent sur audio, sur l'application Radio-Canada Audio. Un homme qui nous écrit « Je suis un étudiant américain de français et un futur Canadien, par ancêtre ou par immigration, j'espère, dit-il, parce qu'il y a un mouvement en ce sens en ce moment. Depuis 6 mois, j'écoute les décrypteurs pour mes études de français et pour mon intérêt pour la protection de la vie privée, les logiciels libres et beaucoup d'autres sujets. Merci Alexis, Jeff et Nicolas et à toute l'équipe des décrypteurs, cordialement. » Eh bien, cordialement, merci pour cette écoute attentive, quand même, hein?
Oh non, c'est incroyable. C'est pas la première personne qui nous dit qu'il écoute le balado pour parfaire son français québécois. C'est vraiment cool. On est super content.
Voilà pour les commentaires qu'on a reçus et qui nous ont fait réagir, dans bien des cas, comme vous le voyez, positivement. Allons-y avec le menu du jour qui se décline comme suit. Premièrement, on vous parle d'IA, et oui, encore une fois, mais l'IA et ses détracteurs qui sont dans la mire des forces de l'ordre aux États-Unis de ce côté-ci de la frontière aussi. Il y a de la grogne de plus en plus qui s'installe, qui s'enracine. On revient là-dessus. On va faire le point sur ce qui se trame en ce moment. Le Vatican aussi a son mot à dire sur l'intelligence artificielle. Le pape a ajouté son gros grain de sel dans tout ce vaste débat avec la bénédiction d'Anthropic, pourquoi pas. Amende salée pour des entreprises qui ont prétendu pouvoir écouter des conversations à des fins publicitaires. C'est pas exactement ce qui était fait et ces entreprises devront payer le prix. Ça coûte cher quand même. Google et Apple qui étaient au Canada, rencontrer les élus, à l'invitation des élus, pour parler de C22. Ils refusent net de se plier à certaines dispositions de ce projet de loi. On va aussi vous parler de cette ex-influenceuse MAGA Ashley Sinclair qui retourne sa veste et règle ses comptes. C'est quand même assez épicé tout ça. Tapis rouge au délit d'initié sur Polymarket, un autre dossier dont on veut vous parler parce qu'il y a un autre exemple qui force la conversation, encore une fois, sur cette plateforme. Et c'est parti pour le 105e épisode du Balado des Décrypteurs. Avant d'entamer cette enfilade de sujets tout à fait joyeux, un petit rappel, les pouces en l'air, les likes, on les aime sur YouTube, comme vous le savez. Titillons collectivement l'algorithme de YouTube et la suite n'est que radieuse, tout comme l'est la suite de l'implantation des centres de données aux États-Unis qui suscite pas mal de grogne, de colère, un point tel que les agences de renseignement et les forces de l'ordre aux États-Unis ont trouvé une nouvelle source de danger, si on veut. Les extrémistes anti-technologie. C'est comme ça qu'on les appelle, c'est l'étiquette qui est donnée. Une nouvelle catégorie d'individus, désormais perçue comme une menace interne émergente. En toile de fond, ben, le fait indéniable que l'IA génère un mouvement de ressac de plus en plus présent sur les campus universitaires, dans la rue, dans les instances gouvernementales locales, j'en passe et j'en passe. Et il y a la construction éventuelle ou déjà avérée de centres de données qui est au cœur principalement de ces doléances et de cette vague de mobilisation. Mais avant de parler des États-Unis, parlons de ce qui se trame chez nous, parce qu'on suit dans ce même sillage, pas loin derrière.
Oui, il y a eu des manifestations à Vancouver la fin de semaine dernière parce que la ville aura 2 centres de données de TELUS, donc l'entreprise de télécommunications. Il y en a 3 en Colombie-Britannique qui devraient être construits au cours des prochaines années, mais bon, deux d'entre eux à Vancouver, dont le plus grand qui ferait 400 000 pieds carrés, serait construit juste à côté du BC Place. Donc, c'est vraiment au centre de Vancouver qu'on voudrait construire ces centres de données-là. Et on voit, c'est ça, une mobilisation populaire contre ça pour différentes raisons. Donc, c'est un peu un microcosme de ce qu'on voit aux États-Unis parce que dans la mobilisation aux États-Unis, c'est beaucoup des doléances au sujet de l'environnement qui sont soulevées, des gens qui parlent de consommation d'eau, de consommation d'énergie. C'est aussi ce qu'on a vu à Vancouver et ces manifestations-là surviennent alors que la ville a même des restrictions d'eau en ce moment. Faut le dire, c'est à cause que leur système de canalisation est en maintenance en ce moment, donc il y a des restrictions sur l'eau et à mesure que l'été avance, il y en aura davantage. Et les gens disent, ben regardez, on est déjà en train de se restreindre en ce moment. Ces centres-là consomment énormément d'eau.
Pour refroidir les serveurs. Là.
C'est ça. Dans ce cas-ci, là, on dit que ça va fonctionner à 98 % à l'aide d'énergie hydroélectrique qui utiliseront 90 % moins d'eau que d'autres centres de données. Ça que TELUS dit. En tout cas, ils présentent ça comme une initiative verte. Mais au-delà même de ce qui concerne l'environnement, je pense que c'est juste aussi une attitude des gens qui disent on n'en veut pas, on ne veut pas d'IA, on ne veut pas de centre de données, puis on dit juste non à ça. C'est une manière peut-être d'exprimer concrètement sa colère envers l'industrie.
C'est un objet contre lequel tu peux manifester. C'est assez difficile de manifester contre OpenAI ou Anthropic, le concept de l'intelligence artificielle, alors que là, tu as un bien réel et concret qui est en train de se construire. Puis tu sais, je voyais des observations là-dessus, comme quoi, tu sais, il y a un discours dans beaucoup d'opposants au centre de données, comme quoi, tu sais, l'IA, c'est une technologie qui est dangereuse, qui va voler des emplois, qui va mener à une transformation complète de la société, qui, c'est un outil potentiellement dangereux, c'est entre les mauvaises mains. Puis c'est pas les détracteurs qui disent ça, c'est les PDG des compagnies d'IA eux-mêmes. C'est des gens comme Dario Amodei d'Anthropic ou Sam Altman d'OpenAI qui disent des choses comme ça. Donc, le message qui est envoyé par l'industrie elle-même, c'est on est en train de construire quelque chose de super dangereux qui va voler vos jobs. Mm. Puis là, tu as des gens qui sont opposés à ça puis qui voient ça comme quelque chose de néfaste pour leur société. Il y a peut-être... il y a peut-être un problème de communication du bord, du côté des entreprises d'IA. Quand c'est ça, le principal message qu'ils envoient, c'est qu'on est en train de construire quelque chose de super dangereux.
Mais c'est aussi que, mettons, celle à Vancouver, ça s'inscrit dans ce plan du fédéral d'avoir une souveraineté numérique, une souveraineté sur nos données. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que la souveraineté numérique, c'est une bonne chose, mais après ça...
À quel prix?
À quel prix? Et aussi, les gens, après ça, vont soulever le concept du NIMBYism, not in my backyard,
pas dans ma cour. C'est ça.
Et donc, les gens vont dire, ah, ben, tu sais, le monde veut utiliser l'IA, mais ils veulent pas qu'il y ait un centre de données chez eux, ils veulent que ce soit construit ailleurs. Je pense que c'est un argument un peu simpliste parce que ça va plus loin que juste le pas dans ma cour. Je pense que c'est des gens même qui se disent est-ce qu'on a besoin de ça en général, tu sais. Mais tout ça s'inscrit dans l'espèce de discours d'inévitabilité de la technologie aussi. C'est comme pris pour acquis qu'on va l'avoir, donc il faut qu'on ait les centres de données chez nous plutôt que de remettre en question l'utilité at large de la technologie.
Non, l'attitude est bien personnifiée par Kevin O'Leary qui est un supposé multimillionnaire canadien qui était au Dragon.
Supposé.
Ben, je veux dire, on sait pas le réel état de ses finances. C'est sûr que, on rentrera pas là-dedans. Mais,
Est-ce qu'il vit aux États-Unis maintenant?
Pas certain.
Des Télé-Américains.
C'est un Canadien qui est souvent sur les ondes, comme tu dis, aux États-Unis. Il a été connu à cause... Il était dans la version anglaise des Dragons.
Il était à Dragon's Den au Canada, puis Shark Tank aux États-Unis.
Puis, il est un des investisseurs dans un projet de centre de données au Utah. Quelque chose d'absolument immense. Là. On parle de... Kevin O'Leary affirme qu'ils vont, à terme, là, investir 100 milliards de dollars dans ce centre, ce gros campus de centre de données-là, qui fait 40 000 acres. Savez-vous c'est quoi ça en termes de superficie?
40 000 acres?
Acres.
Okay. C'est énorme, ça.
Moi, j'ai vu à peu près 30 000 terrains de football. Ça se peut-tu?
Les fameux terrains de football.
Terrains de football.
c'est
sûr que tu as vu ça dans un média américain parce que l'unité de mesure de superficie aux États-Unis, c'est des terrains de football. Puis c'est pas des terrains de football, de soccer, là, même si on va faire la Coupe du Monde.
C'est combien de patinoires?
C'est 162 km carrés, OK? Pour vous donner une idée, la superficie de Montréal, c'est 365 km carrés.
Ça n'a pas de sens.
La moitié de la ville de Montréal, un immense campus de centre de données. Donc, l'Université de l'Utah là, estime que ça va augmenter l'émission de gaz à effet de serre de l'État de Utah par 50 %. Donc, il y a une mobilisation contre ça. Il y a eu tout un imbroglio politique dans le comté en question, Box Elder County, où la population voulait faire bloquer ce projet-là. Mm-hmm. Puis les représentants municipaux ont fait passer l'approbation sans le consentement. Là, il va y avoir supposément un référendum là-dessus.
Ouais,
ils sont en train de récolter des signatures, mais il y a un gros mouvement pour bloquer ce centre de données-là. Et Kevin O'Leary, sa réponse à ça, c'est de dire c'est de la désinformation chinoise. Il dit que...
Désinformation chinoise?
Oui, c'est que l'idée, c'est que la Chine essaie de miner la confiance des Américains envers l'intelligence artificielle pour garder, pour essayer de ralentir l'avantage américain. Puis ses arguments sont complètement absurdes. Là, je l'ai vu, un clip de lui, puis c'est lui qui l'a publié sur son propre compte X. Donc, il est 100% fier de ça. Il a affirmé à Fox News que la semaine dernière... Un gars qui travaille pour lui dans le IT, donc l'informatique, lui a dit « Hey, tu reçois 10 000 % plus de messages privés sur Instagram puis sur X. Puis il dit, c'est bizarre, là, ça a l'air des robots, c'est coordonné. Puis.
Classique.
Mais là, Kevin O'Leary affirme que son expert, il est allé voir les adresses IP des comptes qui envoient des DM puis que ça vient de la Chine. C'est absurde à l'extrême. C'est impossible. Tu peux pas voir les adresses IP de gens sur ton compte Insta, qui t'écrivent sur Instagram. C'est juste Meta qui peut voir les adresses IP. Comme, est-ce que tu es en train de nous dire que ton technicien a carrément piraté X et Meta? Et si oui, on a peut-être un problème. Mais je veux dire, bref, puis il a accusé des personnes, il les a nommées en onde de dire que c'est des agents chinoises. Puis ça a mené à une situation assez drôle où tu as deux jeunes femmes, Gabby Finlayson puis Jackie Morgan, qui ont fait une vidéo TikTok. Il les nommait, là, puis il disait, regarde, qui vous paye? Mm. Vous êtes des agents chinois. Puis ils ont fait un TikTok, c'est comme, de quoi tu parles? Ouais. On est juste deux filles. On est contre ce projet-là. On est des citoyennes américaines. On a le droit de s'exprimer. Puis ouais. Comme, c'est quoi? J'aimerais ça me faire payer pour ça, mais...
C'est aussi Kevin O'Leary parlait d'ingérence étrangère. Puis on dit, la seule ingérence étrangère qu'il y a, c'est toi. T'es en train de rentrer aux États-Unis, t'es Canadien, ouais. Tu sais. Mais juste pour être clair, lui, il y a un peu le visage de ce projet-là, mais c'est pas lui qui le finance au grand complet.
Non, c'est ça.
Juste parce que, en tout cas, ça, il y a peut-être cette perception-là aussi.
Kevin O'Leary saute de... Trend en trend. Ouais. Il y a quelques années, il était à fond dans la crypto, puis je trouve ça très drôle parce que si tu vas sur son compte X en ce moment, là, le pin tweet, mm-hmm. le premier là, qui est barré, il fait la promotion d'une genre de compagnie qui vend des jetons en or.
D'abord.
Puis j'ai essayé de cliquer sur le site. Firefox me laisse pas. Mm. Et l'Internet de Radio-Canada ne me permet pas d'accéder au site en disant que c'est un site de phishing. Donc, ça montre un peu le genre de choses.
Le gars est sérieux.
Seule chose que j'aurais à dire de positif sur lui, il a été quand même bon dans Marley Supreme, quand même. il m'a surpris. En tant qu'acteur, je ne savais pas que Kevin O'Leary avait des... Il joue lui-même un peu, là, on dirait, mais il m'a impressionné à l'écran, au grand écran.
Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Oh. Mais je propose qu'on dézoome un petit peu, là, qu'on s'éloigne un peu du cas O'Leary, qui est fort intéressant, mais un peu plus largement, parlant de cette opposition, on parlera des chiffres des sondages, hein, qui le démontrent clairement dans quelques instants, Nicolas, mais il y a des projets de loi, il n'y en a pas un, deux, trois, quatre, il y en a plusieurs au niveau des États pour mettre un frein à tout ça. En Géorgie, un projet de loi qui empêcherait les villes de délivrer des permis aux sans-données jusqu'en 2027. Au Maryland, un autre projet de loi qui suspendrait tout projet de centre de données jusqu'à ce que les États trouvent une solution pour alimenter ces centres de données en électricité. En Oklahoma, même chose jusqu'en 2029. En Virginie, un des États où est-ce qu'il y en a le plus également, on envisage une proposition qui vise à bloquer toute nouvelle construction jusqu'à ce que les besoins spécifiques en électricité soient satisfaits. Alors, on le voit à quel point c'est un mouvement qui prend de la place. Erin Brockovich est un des visages publics de tout ça. La grande avocate ou figure de proue de ce mouvement qui s'était battu à l'époque, on se rappelle, dans les années 90.
Le fameux film avec Julia Roberts.
Exactement.
Que Nicolas a absolument vu. Ouais, il savait absolument de quoi on parlait.
Je sais pas de quoi vous parlez.
Mais ceux qui sont d'une génération plus vieille savent. C'était mythique à l'époque. Ouais, Erin Brockovich qui a lancé un site web qui traque non seulement les centres de données actifs, mais les projets proposés, ceux qui sont en construction.
Exact.
Fait que tu as une map des États-Unis, puis tu vois le nombre de projets qui sont proposés, là, c'est absolument sidérant. Là. Quand tu l'entends qu'il y a plein de projets de centres de données à gauche,
vois,
à droite, mais quand tu le vois visuellement sur une carte, tu te dis, OK, il y en a beaucoup aux États-Unis. Là.
Et puis tu vois que dans certains cas, c'est vraiment bipartisan aussi. C'est mm-hmm. les deux parties mm-hmm. au sein des États qui disent, on n'en veut pas, ou du moins, on va faire un moratoire là-dessus, etc. Puis tu parlais de la Virginie tantôt, il y a un sondage en Virginie du Nord qui a été fait récemment qui montre que seulement 35% des gens seraient à l'aise avec la construction d'un nouveau centre de données dans leur communauté, alors qu'en 2023, c'était 69%. Ouais. Donc, il y a clairement un problème d'acceptabilité sociale avec ça maintenant.
Et ce qui n'aide pas, c'est l'opacité des compagnies. C'est important de souligner, je pense, en tout cas brièvement, le cas d'une ville en Oregon. Google, qui chapeaute ce projet-là, avait signé avec la municipalité une somme substantielle pour construire un nouveau réservoir d'eau. Un journaliste local a voulu savoir précisément la quantité d'eau utilisée par la compagnie pour ses opérations. Impossible de le savoir. Il s'est rendu jusqu'en cour. Un tribunal lui a donné raison. Google a ensuite obtempéré, mais c'est tout un chemin de croix pour parvenir à une information qui aurait dû être donnée d'office. Et les gens de cette municipalité-là, en Oregon, lancent un avertissement aux gens de Vancouver en disant, vous voyez, si vous ne voulez pas subir ce genre de traitement-là, mobilisez-vous. C'est le message qui est envoyé.
Ben, une chose qui est quand même inquiétante, là, c'est qu'on voit qu'il y a une volonté des autorités aux États-Unis de traiter les opposants à ces projets-là comme des terroristes potentiels, des groupes à surveiller. Quand le FBI, par exemple, traite un groupe comme potentiellement dangereux, ça ouvre la porte à de la surveillance, ça ouvre la porte à du traquage, ça ouvre la porte à... qui sait? Alors que, ben, il y a une opposition qui est réelle à ça. Puis aussi, je le vois pas juste chez Kevin O'Leary, mais chez beaucoup de gens qui sont pro-IA, de dire que tous les gens qui opposent les centres de données, ben, c'est que soit sont payés par la Chine ou la Russie qui veulent déstabiliser les États-Unis, soit qu'ils ont carrément de la mauvaise information, qu'ils sont désinformés. Ce sont des zombies qui ont vu un reel sur Instagram, puis là, tout d'un coup, ils sont contre l'IA. De tout mettre ça dans le même panier... Il y a quelque chose qui se trame là. L'opposition aux centres de données, je pense pas que ça va diminuer, du moins sur le court terme. Puis on voit que les pions se placent là, pour l'opposition à l'opposition, disons, ouais, officielle.
Cette information-là, ça nous provient d'un article de Wired qui a vraiment obtenu plus de 1000 pages de rapports du département de la sécurité intérieure, du FBI et des centres de fusion. Ça, c'est comme des espèces de centres qui font lien entre des services de police locaux et les autorités fédérales après le 11 septembre. Puis on voit effectivement qui ont vraiment ces manifestants-là à l'œil. C'est assez large quand on parle d'extrémistes anti-IA, là, parce qu'il y a du monde effectivement qui sont peut-être plus... extrême que d'autres, mais comme la définition est large, ça peut ouvrir la porte à toutes sortes de choses. Puis, j'écoutais un balado du New York Times là-dessus, Hard Fork, il y a quelques semaines, puis c'était peu après les tentatives d'assassinat, ben, les tentatives d'assassinat sur Sam Altman, et ce que les journalistes disaient, c'est que là, tout ça arrive alors que les soi-disant pertes massives d'emplois ne sont pas encore là. Mm. Donc, ça risque de seulement s'intensifier si ces scénarios dont parlent les dirigeants de ces entreprises-là se concrétisent. T'sais, on est à un stade en ce moment où est-ce que, en théorie, là, l'économie va bien. Je dis bien en théorie, comme la S&P 500 est à des taux records aux États-Unis, etc. Si effectivement les gens commencent à perdre massivement des emplois, s'il y a vraiment des effets concrets de l'IA, là, on peut juste imaginer que ça va s'intensifier.
On sait que les gens qui sont plus susceptibles de se mobiliser pour des causes politiques qui leur sont chères, ce sont les jeunes. Puis on l'a vu au cours des dernières semaines aux États-Unis, de façon anecdotique, mais qui est arrivé souvent. Aux États-Unis, il y a une tradition où quand il y a ta cérémonie de graduation, il y a souvent une personne qui va donner une allocution, souvent une personne connue, une personne inspirante. Puis on a vu au cours des dernières semaines des gens qui font des discours aux cérémonies de graduation qui se font huer parce qu'ils parlent d'IA. Il y a eu l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt,
lui-même.
Il a eu de la misère à terminer son discours. Il disait « Hey, laissez-moi terminer ». Puis les jeunes huaient parce qu'ils disaient « Ben, vous êtes chanceux, vous êtes la génération qui va utiliser l'IA pour propulser l'économie à des niveaux jamais vus ». Puis les huées étaient plus fortes qu'au Centre Bell mercredi soir.
Wow, et c'est peu dire.
Oui, il y a eu l'effet contraire quand Steve Wozniak a prononcé un de ces discours-là, mais avec une forte teneur anti-IA, c'était un tonnerre d'applaudissements dans ce même genre de cérémonie. Il y en a qui disent que c'est très générationnel aussi. L'opposition est fortement marquée par des gens de la génération Z qui s'opposent à cette technologie et à son implantation. Mais bref... on va regarder ça à l'œil. Puis il y a notamment le Canada qui va aussi voir la construction qui est en cours là, du plus gros centre de données consacré à l'IA au Canada. Ça va être en Saskatchewan. On garde au décrypteur un œil attentif là-dessus parce qu'il est fort à prévoir qu'il y aura, s'il n'y a pas déjà de la mobilisation contre ce centre de données-là. Mais juste avant, sur les centres de données, il y a quelqu'un qui nous a écrit ceci. « Centre de données dans l'espace, pourquoi pas? » En ce moment, des personnes, surtout défavorisées, se font exproprier pour la construction de ces centres. En plus du coût en énergie, il y a le coût en eau, ressources essentielles selon une certaine pyramide de Maslow. Envoyer le nuage en l'air me paraît une bonne solution. En brisant toute frontière et propriété capitaliste sur les données, serait encore mieux. Sauf que...
C'est
pas très réaliste. Elon Musk a fait la promotion de ce projet-là.
Oui, puis Google aussi. Ouais, NVIDIA en a fait. C'est assez sidérant voir des gens supposés sérieux faire la promotion de ça. Marie-Pierre en a parlé à l'émission. Ouais. C'est pas réaliste. On présente ça comme « Ah, c'est super simple, parce que l'espace est froid, donc tu mets des centres de données, donc tu n'as plus besoin de dépenser l'énergie pour refroidir ton satellite. » C'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Au contraire, la Station spatiale internationale a un module dont le but est de refroidir la station parce que ton satellite, s'il fonctionne à l'énergie solaire, il doit être dans le soleil et ça se réchauffe. Donc, c'est pas réaliste. Il y a toutes sortes de questions sur le coût d'envoyer ça dans l'espace. Tout ça dépend, puis SpaceX le disait dans leur fameux document S1 dont on parlait la semaine dernière. Tout ça dépend du fameux Starship qui serait capable d'envoyer 100 tonnes dans l'espace. Et le projet de SpaceX d'envoyer des centres de données dans l'espace dépend de Starship qui n'a toujours pas fait un orbite autour de la Terre après son 12e lancement la semaine dernière. Donc, c'est même pas qu'on est pour ou contre l'idée, c'est que c'est avec la technologie actuelle, c'est ridicule cette idée-là. Donc, ça me sidère que des compagnies sérieuses comme Google entretiennent des idées comme ça.
Oui, ou encore celle d'Elon Musk avec l'histoire du refroidissement. Comme disait Marie-Pierre, l'espace, c'est avant tout du vide et dans le vide, il y a peu part de froid comme tel. Voilà pour cette question. Des commentaires, des réflexions sur ce sujet, continuez à le faire. Vous le voyez, ça alimente nous-mêmes nos discussions ici. Puisqu'on parle de l'IA, parlons du souverain pontife, le Saint-Père.
C'est très bizarre comme oui. phrase à dire. Hein?
Sa sainteté. Le chef de l'Église, bref, catholique romaine, le pape Léon XIV, qui a pondu cette semaine sa première encyclique, en tout cas la première de son règne. Ça, c'est un écrit solennel qui s'adresse à l'ensemble des fidèles de l'Église catholique, mais aussi à l'humanité dans son ensemble. Il n'y a pas de vocation nécessairement dogmatique à tout ça, là. C'est plutôt un enseignement qui émane du Vatican et du pape. Il y a souvent eu ce genre d'encyclique-là dans des temps de crise. On pense notamment en 1937, puis 11, face à la montée du nazisme, avait voulu évoquer son inquiétude. Le pape François, en 2015, pour évoquer son inquiétude face à la crise climatique. Léon XIII, pendant la Révolution industrielle, pour évoquer les droits des travailleurs qu'il voyait s'éroder de plus en plus, elle avait aussi manifesté son inquiétude. Donc, là, en 2026, le Vatican met le paquet pour se positionner comme une sorte d'autorité morale dans ce vaste débat sur l'implantation de l'intelligence artificielle. Certains diraient que ça contribue à combler le vide ou le silence et l'inaction des gouvernements et des politiciens dans certaines juridictions. Certains diraient à tout le moins. Certains aussi diraient que c'est deux religions qui se parlent entre elles. mais commençons par le commencement. C'est sûr que ça fait 130 pages et plus de 40 000 mots. On le dit tout de suite, on n'a pas tout lu, mais l'essentiel a été lu.
Mais juste avant de parler de l'encyclique en question, tu as mentionné Léon XIII. C'est pas un hasard. Hein?
Ben non.
Parce que, le pape Léon actuel, XIV, a choisi son nom parce qu'il admirait Léon XIII qui, comme tu disais, était pape à l'époque de la Révolution industrielle qui était inquiété par l'inégalité. Puis il a dit, là, Léon XIV, qu'il a choisi ce nom-là pour ça. Mais non seulement ça, son encyclique a été publiée le 15 mai, qui est le même jour que Léon XIII a publié son encyclique sur la Révolution industrielle. Donc, tu sais, il y a un message clair que, et on le voit dans l'encyclique aussi, là, que ce qui se passe en ce moment avec l'intelligence artificielle, c'est comme la nouvelle révolution industrielle avec tous les remous qui en sont découlés. Donc, il y a comme un gros clin d'œil à l'histoire que Léon XIV a fait avec ce document-là.
C'est ça. Puis, comme tu le dis, Alexis, ça parle de plusieurs thèmes. On ne pourra pas tout aborder aujourd'hui et on n'a pas tout lu non plus en toute transparence. Mais tu sais, il parle notamment d'un renouveau troublant de la guerre grâce à l'IA. Mm. Il dit aussi que l'IA contribue à la normalisation de la guerre. Donc, tu sais, on peut prendre certaines distances aux actes de guerre qui sont posés grâce aux armes autonomes, notamment. Mais il parle aussi du désarmement de l'IA, pas seulement dans un contexte de guerre, mais dans un contexte de guerre entre les entreprises d'IA qui, elles, s'accaparent du pouvoir au-delà des gouvernements, au-delà de toute autre forme de réglementation. Puis il dit qu'on devrait laisser de côté cette mentalité de compétition armée entre les entreprises pour créer une intelligence artificielle respectueuse de l'humain. Donc, ce sont des grands mots, des grands concepts. Le titre de l'encyclique, c'est Magnifica Humanitas, donc magnifique humanité. Il veut qu'on garde l'IA humaine, mais encore faut-il... Bon, il dit ça, encore faut-il que ça ait de l'influence. Là.
Ouais.
Ça reste à voir. On a vu qu'il y a un cofondateur d'Anthropic qui était présent au Vatican lorsqu'il l'a présenté aussi. On abordera ça, mais peut-être juste un dernier point que j'ai trouvé intéressant. Là, il a invoqué l'histoire de la Tour de Babel.
Oui, ouais, c'est vrai.
Où une tribu humaine veut construire une tour pour atteindre le ciel, puis ça provoque la colère de Dieu. Donc, lui, il dit que maintenant, des entreprises qui veulent devenir, tu sais, ils veulent jouer à Dieu sans la bénédiction de Dieu, essentiellement. Donc, c'est quand même un avertissement assez, assez franc qu'ils lancent.
Oui, puis comme tu dis, c'était très bizarre de voir le cofondateur d'Anthropic, Christopher Ola, à ses côtés.
Qui est canadien. Hein?
Ah, il est canadien.
Oui, ouais. Il a grandi à Toronto, étudié à Toronto. Il a arrêté ses études peu avant 18 ans, et puis le reste est de l'histoire, comme on le sait.
Oui, donc. Donc, il a salué cette encyclique-là du pape en disant ben, on n'est pas parfait. Des personnes qui contrôlent des compagnies d'IA, il inclut Anthropic aussi. On est des êtres humains qui sont mus par des incitatifs humains qui souvent vont à l'encontre des intérêts de l'humanité. Puis il faut qu'on garde ça en tête, qu'on peut faire des mauvaises qu'on peut prendre des mauvaises décisions. Il salue aussi là, qu'il faut de la critique informée et constructive de l'intelligence artificielle, comme ce document-là du pape. Il en a profité aussi pour dire un peu de la propagande pro-IA, dans le sens que ce qu'on a construit, c'est pas de la technologie normale, c'est plus comme créer des êtres. L'intelligence artificielle, c'est comme créer un être pas vivant, mais une nouvelle forme d'intelligence. Puis encore une fois, là, mentionner que ben, quand on regarde à l'intérieur de nos systèmes comme Claude, on voit des choses qui sont très, très inquiétantes. On voit des choses qui ressemblent à des émotions humaines, des fonctions qui peuvent ressembler à de la joie, de la satisfaction, de la peur, même du deuil. Encore une fois, il n'y a aucune preuve de ça.
Et puis c'est écrit d'une manière tellement mystique. Il dit, nous trouvons des structures qui reflètent les résultats de neurosciences humaines. Il énumère les choses que tu as dites. Je ne sais pas ce que cela signifie, mais je pense que cela exige un discernement continu. Dude, c'est une machine.
Mais, juste, j'aimerais ça lui poser la question. Là. Supposons que tu ouvres une nouvelle fenêtre Claude. Là. Tu lui dis bonjour. Claude répond bonjour. Puis tu fais rien. Qu'est-ce qui se passe dans Claude? Absolument rien.
Il est anxieux, il attend le prochain message.
Non, il n'y a rien qui se passe. C'est réactif. Les robots comme Claude prennent un entrant pour produire un extrant. Ouais. Et c'est ça. Ça prend un invite. Mais sans l'invite, il n'y a rien qui se passe.
Ouais.
Puis même les agents qui sont supposément automatisés, c'est le robot qui s'invite lui-même. Donc, on peut-tu relaxer avec ces choses-là? T'sais, oui, ça... Les modèles de langage étant des boîtes noires, c'est fascinant, puis on comprend pas comment ça fonctionne. Même des gens comme Christopher Ola comprennent pas comment ça fonctionne. Mais de là à se mettre à voir des fantômes dans la machine comme ça, devant le pape, en tout cas, c'est très étrange comme époque dans laquelle on vit.
Ouais, puis il en profite aussi dans sa missive là, pour réitérer le fait qu'il faut que les gouvernements aient des filets sociaux pour les gens qui seront affectés par l'IA, etc. Donc vraiment, il en profite pour juste lancer à nouveau le discours d'Anthropique qu'on entend depuis un certain temps.
Sa parole d'évangile, voilà. En quelque sorte. Et le pape aussi, dans son encyclique, reproche cet effort délibéré d'anthropomorphisation de l'IA. C'est ironique parce que le seul chatbot robot conversationnel qui porte un nom humain, c'est celui d'Anthropique, c'est Claude. Et Claude réfléchit, hein, des fois, quand on attend donc ses réponses. Voilà pour ça. Mais moi, je retiens cette phrase, je tiens vraiment à la lire, qui nous provient d'une ex-ingénieure et chercheuse en IA chez Google, Timnit Gebru, qui a dit ceci. Le Vatican aurait pu dire à Anthropique d'arrêter de voler des données, d'exploiter la main-d'œuvre, de détruire l'environnement, de nous tromper avec des designs anthropomorphisants et de mentir sur les capacités de ses produits. S'associer à une compagnie d'IA comme Anthropic, c'est comme s'associer à la famille Sackler pour discuter des dangers de l'oxycontin, qui est un des opioïdes.
Créé par la famille Sackler.
Sackler, qui est au cœur de la crise des opioïdes.
Ouais.
Alors, gros take, comme on dit, prix chaud.
Prix chaud.
Mais qui en dit long sur tout ça. Mais il ne faut pas oublier, note en bas de page, qu'il y en avait un autre chantre de l'IA qui était de passage à Rome il n'y a pas longtemps, en mars dernier, Peter Thiel, hein, cofondateur de Palantir, qui était venu donner une conférence pour explorer, pour parler de sa théorie là, qu'un antéchrist pourrait surgir puis freiner le développement de l'IA. Il avait été rabroué par le conseiller principal en IA du pape lui-même,
qu'il
avait traité d'hérétique.
Eh mon Dieu, ça, je savais pas ça.
Ouais.
Mais il semblerait que le pape, il rencontre beaucoup de gens de la tech.
Ouais.
Il a rencontré des représentants de Microsoft, Google, etc. au fil du temps. Donc, il entretient beaucoup de discussions avec ces gens, le pape Léon XIV.
Pensez-vous qu'il y a une partie de son encyclique qui a été rédigée à l'aide de l'IA? Certains se posent la question.
Il y a du monde qui ont mis des parties dans il n'y a pas de preuve que ça serait drôlement...
Hey, t'imagines?
C'est-tu écrit à la main à la base? Comme moi, je l'imagine dans un bureau vraiment
avec
comme concentré.
Plume.
Ouais, avec une plume. T'sais, où est-ce qu'il a tapé ça à l'ordinateur? Il me semble que...
Il y en a qui ont dit que la version originale, qui est en italien, quand on la passe dans des détecteurs d'IA, ça détecte plus d'IA que dans les versions traduites en d'autres langues.
Ah bien.
Non, moi, j'ai foi en Léon.
En tout cas, juste pour clore ça, t'as une histoire de, d'intelligence artificielle du pape puis de l'antéchrist. C'est le prochain roman de Dan Brown, ça. Là. Sérieux, tout est là. Ça s'écrit,
c'est vrai.
Ça s'écrit tout seul, surtout quand t'as Claude pour t'aider.
Exactement. Ça pourrait être coécrit Dan Brown puis l'IA.
Pourquoi pas rendu là?
Dan Brown et Claude, pourquoi pas? Allons-y avec un prochain sujet qui s'impose cette semaine. Est-ce qu'on est écouté par nos téléphones? Ça, c'est une question très vaste à laquelle on va peut-être s'attarder un jour autour de ces micros. On ne le fera pas aujourd'hui. On va peut-être le faire à l'émission Les Décrypteurs également, mais on veut surtout parler aujourd'hui de cette facture salée qui a été refilée la semaine dernière par la Commission fédérale du commerce aux États-Unis à une entreprise parce qu'elle aurait trompé ses clients en leur disant que ces outils permettaient d'écouter des conversations à des fins publicitaires. Faux, archi-faux.
Oui, bien, tu as tout dit. C'est Cox Media Group qui reçoit une amende de 930 000 $ de la FTC, le Federal Trade Commission. Donc, c'est salé, mais pour eux, j'imagine, c'est pas grand-chose. Mais tout ce débat là, de si nos téléphones nous écoutent pendant plusieurs années, il n'y avait jamais eu de preuve à cet effet-là. Puis, c'est peu réaliste parce que généralement, lorsque notre micro est activé, on le sait, il y a une notification sur le téléphone, mais... Une des preuves qui était brandie depuis quelque temps, c'est Cox Media Group, ce groupe qui présentait à des publicitaires la possibilité d'avoir ce qu'il appelait une écoute active des conversations des gens pour mieux cibler les publicités.
Ça veut dire quoi, ça?
Ben, c'est ça le nom de leur programme, ouais. Écoute active. Donc, ils disaient aux publicitaires, on peut activer le micro des gens, on peut savoir ce qu'ils sont en train de dire, et comme ça, vous allez mieux cibler vos publicités à ces gens-là. Vendaient finalement des forfaits de publicité aux gens avec ça. Il y a plusieurs médias qui en ont parlé au fil du temps, notamment 404 Media. Et voilà qu'on a une conclusion à cette histoire-là, finalement, de la FTC qui dit « C'est de la fausse publicité que vous faites. Vous avez menti à vos clients. » Donc, voilà la conclusion de cette belle saga.
J'aime ça que se sont présentés comme des gros méchants, ouais. Genre, pour montrer comment ils sont capables d'écouter les gens, d'espionner les gens, puis ils ont menti là-dessus. C'est quand même assez fou, là. T'sais, il y a une certaine époque où, si t'avais affirmé que t'étais capable d'espionner sur tout le monde, une compagnie qui serait capable de faire ça le cacherait parce qu'on veut pas passer pour les méchants, puis eux autres, ils étaient fiers, puis c'était pas
c'est
vrai.
Un flex!
C'était pas vrai, c'était un faux flex.
C'était étrange parce que quand c'était sorti, parce que c'était des présentations comme privées, ils ont finalement retiré ça de leur site web. Ils ont dit « Ah, ben c'est pas vraiment vrai qu'on pouvait écouter activement les gens. Il fallait qu'ils opt-in, donc qu'ils donnent leur consentement pour se faire. » Ils ont comme un peu déjà fait marche arrière quand c'était rendu public. Donc, tout ça était très nébuleux et étrange. Et comme de fait, ben c'était juste de la fausse publicité.
C'était de la sauce.
Exact.
Ashley Sinclair, ça oui. C'est Jess ce matin qui arrive. J'ai un sujet, un autre élément de plus dans le menu. J'ai tout de suite dit oui, cette histoire-là. Est assez incroyable, Jeff.
Et partout en ce moment, Ashley Sinclair. Donc, pour la petite histoire, c'est une jeune femme qui a été influenceuse MAGA pendant un bout. C'est pas dans le top des tops des influenceuses MAGA. Peut-être niveau moyen. Elle était pas super sur notre radar. Elle passait une fois de temps en temps, mais j'ai pas consacré énormément de temps à suivre les publications de Ashley Sinclair au fil des années. Mid-tier, niveau moyen. J'ai dit niveau moyen. Là, je dis des choses en français, puis il faut que tu le traduises en anglais.
On s'amuse, hein?
Tu trouves pas que c'est passif-agressif, un petit peu?
OK, arrête. Non, mais... mais en gros, elle a été un peu propulsée dans l'actualité l'année dernière parce que, bon, il y avait des rumeurs comme quoi le père de son enfant, c'était Elon Musk. Puis là, ben finalement, elle l'a confirmé. Il y a une poursuite. Ouais. Elon Musk, à ma connaissance, n'a jamais officiellement reconnu que c'est le cas, mais bon, il serait le père biologique de son fils. Il y a une grosse poursuite en cours. Puis là, elle semble avoir déchanté avec le mouvement MAGA depuis quelque temps. Elle a comme complètement relancé sa carrière d'influenceuse, mais là, elle dévoile les secrets, comment ça fonctionne à l'intérieur dans MAGA. Puis c'est super habile la façon dont elle fait. Elle suit les codes des réseaux sociaux à la perfection. T'sais, étant une jeune femme, elle fait des vidéos de « Get ready with me » où elle se maquille. Mm-hmm. Donc, elle montre comment elle fait pour se préparer le matin.
Tout en dévoilant du thé
sur comment fonctionne MAGA à l'intérieur. Puis là, ben, elle a des millions de vues sur TikTok, sur tous ses réseaux sociaux. C'est hallucinant. Elle est de plus en plus en vue. Elle a été interviewée par Mehdi Hassan de ZTO, ancien journaliste d'NBC, qui l'a eu à son émission Longue Entrevue. Elle est même passée au balado de Hassan Piker.
Pro de la gauche progressiste, oui.
Plus que progressiste. Lui, il ne se qualifierait pas du tout de progressiste.
Non, c'est trop soft.
Non, c'est lui, il se qualifierait de gauche. Elle est passée à son balado, puis là, elle avait l'air à triper pas mal sur lui, disons. Oh. Il a même donné un T-shirt « I'm not a stepdad, I'm the dad who stepped up ». Donc, une joke sur les beaux-pères. Donc, intimait que peut-être elle pourrait être en couple avec lui. En tout cas, elle entretient Voyons. Ça, mais c'est parce que ça crée du contenu, on s'entend, ça fait réagir.
Oui,
je pense qu'il y a une stratégie derrière ça.
Mais là, quand tu parles de ce contenu-là, qu'est-ce que tu retiens des choses qu'elle révèle sur Manga?
C'est ça, je pense que elle est passée... Elle le dit ouvertement que quand elle était influenceuse MAGA, elle disait des choses qu'elle croyait pas parce que ça y apportait du succès, puis elle y pensait pas trop aux conséquences de ce qu'elle dit.
Elle était pas payée aussi?
Elle était payée, bien sûr. Et là, j'ai comme l'impression qu'elle fait un peu la même chose, mais pour la gauche. Donc, elle dit des choses que les gens veulent entendre. Je dis pas que c'est complètement insincère, mais... Tu sais, elle se met à dire que j'ai vu une vidéo où elle dit que Elon Musk lui a dit qu'il avait réussi à voler l'élection avec des satellites. Puis elle a dit, ben en passant, là, tout ça est backed up avec d'autres gens. Fait que s'il se passe quelque chose avec moi, ça va être dévoilé. Tu sais, comme elle joue vraiment un peu sur le côté un peu.
Puis ça fait quand même quelques mois, quelques semaines qu'elle fait ça. Puis une des premières choses qu'elle avait dites, je pense, qui avait vraiment eu beaucoup d'attention, elle disait que tous les influenceurs MAGA, finalement, ils reçoivent des ordres. Puis là, tous en même temps vont passer les mêmes messages. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce qu'elle a montré des preuves de ça?
Non.
Absolument pas. Mais là, il y a une certaine frange de la gauche en ligne qui prend ça 100% pour du cash. On la croit parce que ça confirme nos billets. Puis elle se fait inviter à toutes ces émissions-là en ligne d'influenceurs, comme Jeff le mentionnait, ou même d'autres influenceurs de la gauche plus comme... de l'establishment démocrate sur YouTube, là, des gens comme David Pacman, par exemple, qui n'est pas comme d'extrême gauche, mais qui est progressiste.
Ouais.
Fait que ça montre à quel point, quand les gens disent ce qu'on veut entendre, on va pas mal les croire.
Il y a eu de l'argent bizarre dans le monde de MAGA. Il y a eu la saga Tenet Media où la Russie, avec des prêtres noms, a réussi à donner de l'argent à des influenceurs MAGA. Ça, c'est un fait avéré. Là. Il y a eu des poursuites aux États-Unis pour ça. Ce qu'elle dit, c'est que. Il y a de l'argent par des milliardaires, surtout du milieu du pétrole, par exemple, qui organisent des chats avec des influenceurs MAGA. Puis là, t'as comme carrément des jobs que tu peux cliquer dessus. Fait que là, c'est comme une job sur la... Tu sais, faut que tu niaises des personnes trans. Puis là, tu fais la job, puis là, tu reçois de l'argent, un montant qui est prédéterminé, comme super organisé. C'est ça qu'elle affirme. Mais comme Nicolas le dit, elle n'a aucune preuve. Il n'y a aucune capture d'écran qu'elle a montré. C'est selon elle ce qu'elle dit. Donc, tu sais, c'est un peu... de voir des gens la croire sur parole, alors qu'elle-même, là, elle dit que quand elle était influenceuse MAGA, elle racontait n'importe quoi, puis même si elle y croyait pas, ben ça faisait du bon contenu. Elle dit le regretter maintenant. Mais tu sais, elle a quand même passé là, 10 ans, je pense, presque,
faire ça. C'est ça.
Puis elle comprend comment ça fonctionne, les réseaux sociaux. Je suis remonté dans son... Quand elle a fait son reboot de son compte TikTok l'année dernière... T'sais, tu vois qu'elle voulait faire du contenu pour pogner. T'sais, elle faisait des TikTok classiques, là, lip-syncer une chanson ou des citations de films. Tout avec une...
Elle connaît la recette.
Tout avec une trame de genre « j'ai quitté MAGA ». Bref, t'sais, elle sait comment ça fonctionne, les réseaux sociaux.
Puis on en parle ici depuis un certain temps, là, que cette niche de contenu anti-MAGA ou, mettons, dark woke, si on veut, il y a certains qui vont
dark
appeler ça
woke,
de même. C'est une niche qui peut être exploitée, puis où est-ce qu'il y a de l'argent à faire aussi, il ne faut pas... Faut pas oublier ça.
Oui, faut pas oublier non plus qu'il y a plusieurs éléments de la magasphère qui désertent la magasphère, justement, et puis qui commencent à la critiquer.
Ça sort pas de nulle part. Ça sort pas de nulle part. C'est pas pour dire que ce qu'elle dit, c'est faux et que c'est pas sincère. Dans ses vidéos, là, elle s'excuse d'avoir fait la promotion de certaines choses, surtout la transphobie. Elle dit là, regretter amèrement avoir participé à ça. Mais reste que c'est sur les réseaux sociaux... Faut pas croire tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est un peu la trame narrative de cette émission-ci.
Et
fait que même quand ça te flatte dans le sens du poil, c'est ça. C'est là qu'il faut faire encore plus attention.
Flatter dans le sens du poil, hein, c'est pas exactement ce que Apple et Google ont fait cette semaine à Ottawa quand il était question du projet de loi C-22 dont on va parler à l'instant. Oui, parce que le prétexte est le suivant, c'est qu'il y avait des audiences aux communes. Les élus avaient invité toutes sortes de monde. Il y avait le commissaire à la vie privée, il y avait ces deux compagnies que je viens de nommer, il y avait d'autres groupes qui étaient représentés, qui sont venus donner leur opinion, leur avis sur ce projet de loi dont Nicolas et Jeff vous ont abondamment parlé au cours des dernières semaines. Mais ce qui a retenu l'attention, c'est ça, c'est Google et Apple, Nicolas, et ils n'ont pas de mystère hein, sur le fait qu'ils ne comptent pas se plier à certains aspects du projet de loi, tel qu'il est en ce moment.
Oui, c'est ça. C'est le Comité sur la sécurité publique et nationale qui a poursuivi mardi. Et donc, il y avait quand même des grandes pointures chez Apple et Google qui sont venues témoigner, notamment, là, je vais probablement massacrer son nom, mais Eric Neuenschwander, qui est directeur de la protection de la vie privée des utilisateurs chez Apple. Il a vraiment critiqué le gouvernement sur le fait d'abord qu'elle peut demander secrètement aux entreprises de se plier à des ordres. Donc, ils ont une ordonnance de non-divulgation s'ils reçoivent des demandes du gouvernement. Donc, il a même commencé son discours en disant « Ça se peut que ce soit la dernière fois que je puisse vous en parler ouvertement à cause des ordres du gouvernement. » Donc, quand même assez critique, il a dit ça. Puis, il a dit aussi que Apple va jamais plier sur le chiffrement des données, parce qu'on le sait, on en a parlé la semaine dernière, il y a beaucoup de craintes que ce projet de loi-là pourrait ouvrir la porte à des portes dérobées, à des backdoors vers les données des utilisateurs. Et il a cité plusieurs fois en exemple Salt Typhoon aux États-Unis. On en a parlé ici de nombreuses fois. Ouais. On le sait, ce sont des acteurs malveillants qui ont exploité une faille dans le système de télécommunication américaine. Une porte dérobée.
Pour les forces de l'ordre.
Pour les forces de l'ordre. Donc, une faille, c'était peut-être pas le bon mot, en fait.
C'était pas une faille, c'était not a bug, it's a feature.
Ouais. Exactement.
En bon français.
Exactement. Donc, il dit il a appelé le comité à adopter des amendements qui protégeraient explicitement tout affaiblissement du chiffrement. Il y a Kate Charlotte, qui, elle, est directrice des politiques de vie privée, de sûreté et de sécurité de Google, qui a dit tout d'abord que Google permet aux utilisateurs de supprimer leurs données après 3 mois. On le sait, ce projet de loi-là demanderait aux entreprises, aux fournisseurs de services électroniques qui ne sont pas nommés dans le projet de loi, là, de retenir des métadonnées pour une période allant jusqu'à 1 an. Donc, elle dit que ça va à l'encontre des politiques de Google. Et elle a aussi parlé, encore une fois, là, de la possibilité de briser le chiffrement avec ce projet de loi-là. Elle dit aussi que Google ne veut jamais briser le chiffrement, demande plus de protection. Donc, les deux entreprises disent pas on jette le projet de loi aux poubelles, on veut pas ça. Ils disent, on veut collaborer avec vous, on veut aider les forces de l'ordre. On le fait déjà, on répond à des milliers de demandes par année du gouvernement canadien notamment, mais il dit que ce projet de loi-là va trop loin. Il y a encore le ministre de la Sécurité publique, Gary Anandasan Gary, qui a dit, encore une fois, là, qu'il y a une mécompréhension du projet de loi, qu'ils ne veulent pas briser le chiffrement, mais bon, que maintenant, le parti veut amender le projet de loi pour clarifier certaines dispositions, pour mieux définir quelles sont les métadonnées, pour peut-être définir de manière plus explicite qu'on ne peut pas créer des portes dérobées. Est-ce que ce sera suffisant pour satisfaire à ces entreprises-là, pour satisfaire aussi aux experts en protection de la vie privée qui ont dénoncé vertement ce projet de loi-là depuis quelques temps, ce sera à suivre.
On dirait que, selon le ministre, personne ne comprend le projet de loi sauf lui. Donc, je pense qu'il y a peut-être un peu de clarté qui devrait être déployée, parce que si les experts en vie privée, si les groupes de défense de la vie privée, si les entreprises de la tech, tout le monde ne comprend pas le projet de loi, peut-être que le projet de loi n'est pas clair. Là.
C'est pas juste ça, c'est aussi qu'il a l'air de dire comme que les entreprises de tech aiment pas ça quand on s'attaque à eux. Puis là, nous, on fait ça pour comme résister à la big tech un peu. Cette espèce de discours-là aussi qui a pas utilisé exactement ces mots-là, tu sais. Mais c'est ça, c'est un discours comme anti-big tech avec ce projet de loi-là, alors qu'il est en train d'en fait demander à la big tech de plus collaborer avec son gouvernement. Fait que c'est assez particulier comme discours.
Oui, puis sur l'ambiguïté, il y a quelqu'un qui nous a écrit à ce sujet-là. Mm-hmm. Et si cette ambiguïté-là était utile donc aux autorités fédérales? Il y a quelqu'un qui nous a écrit, s'il y a confusion, c'est que le projet de loi doit être clarifié. Sinon, la loi est ouverte à interprétation. C'est extrêmement dommageable pour les citoyens, en fin de compte, les autorités, les tribunaux pouvant jouer sur les ambiguïtés pour servir leur dessein, bon ou mauvais, comme disent les Anglais, le « rule of thumb », la règle du pouce, dit-il, et le suivant dans le monde législatif. Plus le texte de loi est large et ambigu, plus on est en droit de mettre en doute les réelles intentions derrière le texte en question. Alors, voilà pour ce commentaire.
On a vraiment les commentaires les plus intelligents.
Incroyable. Salutations. C'est fou, merci pour ce commentaire. Ouais.
La meilleure section de commentaires sur YouTube. Mais c'est un autre discours qui revient souvent du gouvernement, c'est que tous les pays du G7 ont un régime d'accès légal comme ça. Puis le Canada, finalement, en faisant ça, on fait juste se rattraper aux autres. Mais il y a Janet Patel, qui est directrice des affaires gouvernementales pour Google Canada. Elle l'a dit, là, ça va plus loin que toutes les autres lois des autres pays du G7, selon elle. Donc, encore une fois, il y a beaucoup de résistance.
Autre commentaire d'une personne qui nous écrit, C22, le problème, c'est que les juristes qui rédigent le projet de loi ne maîtrisent pas suffisamment la technologie pour faire du bon travail. Voilà pour le commentaire de cette personne. On ne va pas nécessairement élaborer là-dessus, mais ça fait partie de la discussion un peu plus générale sur ce qui se trame en ce moment sur ce front-là. Bien sûr qu'on garde les yeux rivés sur les prochaines étapes qui, espérons-là, ne tarderont pas sur ce front-là.
Ça a l'air d'inquiéter beaucoup des gens qui nous écoutent, donc on aime ça vous entendre là-dessus, surtout avec des commentaires aussi intelligents et constructifs. constructif que ça. Donc, n'hésitez pas, là, on veut savoir ce que vous pensez de ça. On en parle souvent depuis quelques semaines au balado de C22. Mm-hmm. Bien, de toute évidence, ça crée de l'inquiétude, non seulement chez les experts et les compagnies mm-hmm. de technologie, mais aussi chez les gens qui nous écoutent. Donc, on veut vous entendre.
Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. C'est salutaire de savoir que les gens sont attentifs, sont aux aguets et puis ne sont pas prêts à s'en faire passer une petite bite, si on veut.
Salut, je me permets de m'insérer dans la discussion parce qu'il y a un petit ajout qui s'impose. Jeudi après-midi, tout juste après l'enregistrement de notre épisode, il y a le comité de la sécurité publique et nationale qui a poursuivi ses audiences à Ottawa. Et c'est à ce moment-là que le ministre fédéral Gary Anandasangari a réitéré le fait que le projet de loi C-22 serait amendé pour garantir qu'il ne mènerait pas à l'implantation de portes dérobées chez les fournisseurs de services électroniques. Et là, ensuite, le ministre a demandé au sous-commissaire supérieur de la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, Brian Larkin, d'expliquer l'importance de C-22 pour les forces de l'ordre. Et là, dans sa réponse, M. Larkin, le sous-commissaire, a notamment affirmé que le chiffrement paralyse certaines enquêtes policières et que le projet de loi permettrait donc d'y remédier. Et là, selon plusieurs experts en protection de la vie privée, cette affirmation-là de M. Larkin est un aveu implicite du fait que C-22 servira bel et bien à contourner le chiffrement, alors, comme on le sait, que le gouvernement soutient le contraire depuis des semaines et des semaines. On l'a évoqué à notre micro à quelques reprises. On a tenté de joindre la GRC pour obtenir davantage de précisions. Au moment d'enregistrer cet ajout-ci, là, on n'a reçu aucune réponse à nos demandes. Bien sûr, on vous revient la semaine prochaine s'il y a des développements, s'il y a du nouveau. Comptez sur nous. Autre petite mise à jour à laquelle je tiens avant de fermer cette parenthèse. Encore après notre enregistrement de jeudi, le ministre Anandasangari a aussi affirmé au National Post qu'il souhaite que le projet de loi C-22 soit adopté avant la pause estivale. Ça veut dire le 19 juin. Ça arrive vite, là. Il va falloir que le gouvernement et les élus dans leur ensemble mettent les bouchées doubles pour boucler tout ça à temps. Ça, c'est sûr et certain. On va suivre ça. Ben, voilà pour ces précisions. Je m'arrête ici. On retourne à notre discussion. Salut.
Rapidement, Jeff m'avait dit qu'il y avait quelque chose pour nous changer les idées, pour rire un peu en fin d'épisode. J'ai oublié, c'était quoi, Jeff? Peux-tu me le rappeler?
Paris Market.
Ah, c'est vrai! Body Market. Oui, cette histoire-là, complètement. Aïe. Oui, Body Market. Une autre personne qui s'est fait mettre, qui s'est fait prendre la main dans le sac.
Là, apparemment que ça, c'est un sujet bubbly, donc c'est drôle. J'aimerais que les gens dans les commentaires nous disent s'ils trouvent
que
ça.
C'est drôle. Capable de ficeler quelque chose pour que ça soit drôle.
C'est vrai.
Faut bien confiance en moi.
J'ai confiance en toi, je dis juste que c'est dark quand
mais
même.
Mais oui, c'est drôle. C'est comme.
Passif, agressif.
On essaie toujours de trouver quelque chose de cocasse, un peu plus léger pour terminer l'épisode. Puis là, je propose ça, puis les deux étaient comme. Mais dude, c'est tellement déprimant. Mais en gros, c'est Michael Espagnol, qui était un ingénieur chez Google, qui s'est fait arrêter, accusé de fraude aux États-Unis parce qu'il a fait un pari sur Poly Market en ayant de l'information d'initié. Donc, dans le fond, il a misé sur Poly Market sur qu'est-ce que ça serait le terme de recherche le plus populaire en 2025. Misé sur David, c'est un rappeur américain qui a été arrêté pour un meurtre absolument sordide. Puis ça avait quasiment pas de chance de remporter, mais lui, il y avait de l'information interne chez Google que ça serait le gagnant de l'année 2025. Et donc, il a gagné 1,2 million de dollars américains. Il s'est fait avoir. La justice américaine dit, tu peux pas faire ça, c'est de la fraude, tu as de l'information que le reste de la population n'a pas. Là où ça devient ironique, c'est que Shane Copeland, le fondateur de Poly Market, il est pour les délits d'initié.
Il l'a dit, hein?
Ben oui, il l'a dit. En novembre 2025, il était interviewé pendant un événement de Axios, là, le média en ligne. Puis le journaliste lui donne un exemple, par exemple. Comme, supposons que Google, là, on sait qu'ils vont lancer leur nouvelle version de Gemini. Puis là, les gens peuvent miser sur quand est-ce que ça va sortir. Puis le journaliste dit, il y a du monde qui savent quand est-ce que ça va sortir. Puis ils pourraient mettre des paris en ayant de l'information non publique. Qu'est-ce que vous faites pour protéger contre ça? Puis Shane Copeland, il dit, ce qui est cool avec Poly Market, là, c'est que les gens qui ont des informations internes, ils ont un incitatif à le divulguer. Ouais, donc, l'incitatif financier de miser là-dessus. Et ça, ça fait en sorte que l'humanité va avoir plus de vérité parce que les gens qui ont de l'information cachée, interne, ont un incitatif de divulguer sur des plateformes publiques comme Polymarket. Donc, en gros, tordu, ce que tu disais, c'est que les délits d'initiés, c'est good, c'est nice pour l'humanité. C'est it's a cool thing. C'est une chose qui est vraiment cool avec Polymarket. Puis là, ben, il incite les gens à faire du délit d'initié sur sa plateforme. Ben, il y a un gars de Google qui l'a fait, puis que maintenant, ben, il risque la prison. Donc, assez. Ouais, OK, c'est peut-être
historique. Très comique, Lucas, Jeff, merci. C'est
Non, mais c'est le mot.
J'ai un humour peut-être assez.
Non, mais il l'a dit. Il y a quand même une ironie dans tout ça. Une douce ironie. Puis certains, écoute, peuvent en rire, jaune, mais quand même.
C'est pas le premier cas. Il y a un soldat américain aussi.
C'est ça. Il a perdu son travail, j'imagine.
Là, tu parles de...
Le gars de Google?
Oui, pour le moment, oui. Il y a une enquête en cours. Mais c'est ça, c'est pas le premier cas. Ouais. Même cette année, il y a un soldat américain aussi qui avait misé sur l'arrestation de Nicolas Maduro en ayant de l'information interne. Lui aussi est accusé pour fraude. Donc, écoutez pas Shane Copeland, le fondateur de Polymarket. Ça serait peut-être mon conseil judiciaire.
Je me demande si quand ça va sortir qu'il y a des arbitres de hockey qui mettent sur Polymarket.
Oh man.
Louis-Charles l'a aimé celle-là. Mais on a pas perdu à cause des arbitres, on a perdu parce qu'on est pourris.
Veux-tu que j'en rajoute là-dessus?
J'en ai déjà entendu beaucoup.
Assez, hein?
Ouais, mais tu peux si tu veux.
Non, c'est correct.
En ce moment, on ne sait pas l'issue du match de vendredi, donc.
De vendredi?
Arrêtons ça.
Montréal à 2%.
C'est ça que Polymarket dit?
Oui.
Montréal 2%?
Yes.
Au début, c'était combien?
Je ne sais pas.
C'était comme 30.
Ouais, 30-40. Toi, Jérémy? C'est fini, hein? Non? Pas fini? Pas fini tant que c'est pas fini. Vas-y. 15 ans 6.
Bon.
Louis-Charles, comment ça se termine?
En 6. On va gagner vendredi.
Louis-Charles l'a dit. On va se laisser sur cette note et sur ces prédictions. Ça a été un plaisir encore une fois d'être parmi vous. Les commentaires, les likes, les pouces en l'air, l'amour, le love, les commentaires constructifs, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'être passif-agressif, allez-y, je vous aime quand même.
Toi, on sait que tu le veux, en tout cas.
Merci à ceux qui se trouvent en régie. Est-ce que la visite est encore là? Oui, il y a Geneviève qui est là avec sa petite stagiaire qu'on salue. Bonjour. Et puis, évidemment, Martine et notre cher Jérémy et tout le monde ici, présent et pas présent, qui nous soutiennent dans cette belle aventure. À vous tous et toutes, je vous dis à la semaine prochaine. On sera là, fidèle au poste, bien sûr. Toujours ravi de vous lire, toujours ravi de vous savoir parmi nous. Je vous aime. Prenez soin de vous. Gardez le sourire, même quand c'est pas drôle. Allez, salut.
Incroyable.